30 juin 1999, l'Église catholique et les Églises luthériennes signent un accord sur la question de la justification. Document unique à ce jour, cet accord levait enfin les condamnations doctrinales prononcées au XVIe siècle sur la question des moyens du salut. Depuis lors, en effet, catholiques et protestants interprétaient de manière différente ce texte de saint Paul. Nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans la pratique de la loi. Pour nous éclairer, nous avons interrogé Elisabeth Parmentier, professeure de théologie à la faculté protestante de Strasbourg. Alors, suffit-il de croire une fois dans sa vie en Jésus pour être sauvé ?
Non, on ne peut pas du tout dire ça de cette manière-là. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, Paul introduit une spécificité par rapport au judaïsme, l'insistance sur l'orientation intérieure de la personne. Donc il ne suffit pas effectivement de remplir les conditions de la loi, d'obéir aux commandements, mais il faut encore y ajouter la foi, c'est-à-dire cet abandon, non pas à des convictions doctrinales, mais à Jésus-Christ lui-même.
À quel endroit est-ce que Paul définit tout cela et pourquoi est-ce que c'était si important pour Paul ?
C'est en particulier dans l'Épître aux Romains que Paul fait une sorte de testament dans lequel il insiste sur les aspects les plus importants de ce qui lui paraît être le message en lien avec le salut. Et il insiste en particulier dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4 sur le fait que c'est par la foi seule que nous accédons à notre justice, ou justification comme il l'appelle, qui n'est pas une justice d'un Dieu vengeur, mais qui est le fait que Dieu nous offre la justice en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous a déjà libérés, et ce n'est donc pas notre œuvre. En fait, c'est sur cela que porte la difficulté. Quelle est la marge de manœuvre de l'homme et dans quelle mesure contribue-t-il au processus du salut ?
Pourquoi est-ce que Paul a voulu parler de cela dans la lettre aux Romains ?
Une grande partie de la lettre aux Romains porte sur la question du rapport entre les premiers chrétiens et les juifs. Avec la question, mais que deviennent les juifs dans la question du salut, puisqu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Mais en ce qui concerne les chrétiens, Paul met justement cet accent sur le fait que ce n'est pas la loi, le respect des commandements, mais que c'est bien la foi en Jésus-Christ crucifié. Donc ça n'est pas non plus une foi abstraite, générale, une sorte de sagesse, mais c'est bien ce crucifié et cet abandon à ce crucifié qui donne le salut.
Et pourquoi est-ce qu'au moment de la réforme protestante, Luther a tant insisté sur ce chapitre 3 de la lettre aux Romains ?
Il faut bien voir que la réforme luthérienne, qui commence en 1518, est une époque où l'Église de la fin du Moyen-Âge a fortement développé un certain nombre d'actions méritoires qui permettent de soulager les peines du purgatoire qu'on appelait les indulgences. Et il y avait d'autres pratiques également, les messes qui étaient payées. Tout ceci pour Luther, ça n'est pas fiable pour le salut de la personne. Donc sa polémique porte sur le fait que l'Église trompe les personnes en leur faisant croire qu'elle serait capable de racheter des peines méritées. C'est à voir sur le contexte de l'époque, qui était un contexte de peur des peines éternelles et de l'enfer.
Et donc, maintenant qu'on est dans un contexte culturel différent où il y a peut-être moins cette peur des peines éternelles, on réussit entre luthériens et catholiques à avoir un accord sur la justification par la foi.
Alors, c'est une réflexion intéressante de se demander si cet accord de 1999, la déclaration commune sur la justification, est surtout lié au fait que la problématique n'est plus la même. Je me demande si nous n'avons pas quand même gardé quelque chose, des traces de cette orientation en nous, quand nous disons qu'il faut faire un certain nombre de choses, en quelque sorte, pour plaire à Dieu. On a un fond un peu païen en nous. On a l'impression que si on en fait davantage, ça ne peut que nous amener des bons points auprès de Dieu. Donc je ne suis pas sûre que le contexte culturel, au fond de la personne, ait tellement changé. La preuve en est par exemple l'expression « qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça ?» qui est en fait le contraire, qui dit « on n'a pas assez fait pour Dieu et donc on subit des difficultés dans nos vies ». Ça c'est une chose, mais je crois que la deuxième chose, qui est la raison pour laquelle une telle déclaration était possible, c'est surtout que les églises ont évolué dans leur manière de lire la Bible, d'interpréter et aussi de comprendre la vie des croyants. Et je crois qu'un certain nombre de malentendus aussi se sont apaisés. L'église de l'époque pensait que Luther dévalorisait le baptême, que Luther disait « on a beau être baptisé, la réalité du péché demeure en l'homme ». parce que lui comprenait le péché non pas comme une action morale, mais comme quelque chose qui, dans l'attitude intérieure du croyant, sépare de Dieu. Donc en cela, il considérait que, tout en étant baptisé, beaucoup de personnes restent intérieurement détachées de Dieu. Et cela, l'Église catholique a bien compris aussi cette orientation plus relationnelle du péché. À partir du XXe siècle, dans les dialogues œcuméniques, les choses se sont quand même éclairées beaucoup. Pareil pour la question des œuvres et de la foi. Cette dialectique, est-ce que c'est la foi qui sauve ou est-ce que ce sont les œuvres, plus aucune église ne la défend aujourd'hui. Toutes défendent la priorité de la foi et les œuvres comme conséquence, comme fruit. Donc sur ce plan, on s'est rapproché aussi beaucoup.
Donc si on revient à saint Paul, ça veut dire qu'en fait, c'est l'interprétation des mots même de saint Paul et puis l'interprétation d'autres mots comme foi, péché, justification qui ont conduit autrefois à des désaccords et aujourd'hui à un accord.
Je pense qu'il y a eu en très grande partie, effectivement, cette difficulté d'interprétation qui se faisait dans des modèles de pensée différents. Pour Luther, c'était surtout une pensée relationnelle. Entre Dieu et l'homme, ça n'était pas une logique de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, c'était plutôt une logique de la certitude intérieure. Est-ce que c'est vraiment mon Seigneur ou non? Et puis il y a aussi, effectivement, quel type d'interprétation de Paul, notamment sur le sens du baptême. De quoi sauve finalement le baptême? Que disons-nous quand nous disons qu'il sauve du péché originel? Est-ce que ça signifie qu'on ne fera plus jamais rien qui déplaise à Dieu? Ben non, en fait. Et je crois que là, on a éclairci beaucoup de choses en comprenant notamment que tout en étant baptisé, l'être humain demeure quand même sous cette tentation de vouloir être à lui-même son propre Dieu. Et que donc il faut sans arrêt revenir au baptême. Sur ce plan, les églises se sont rapprochées en faisant du baptême aussi une compréhension plus dynamique tout au long de la vie baptismale en fait.